Bonjour à chacun, à chacune. J'espère que vous allez tous bien, que le Seigneur vous fortifie, vous renouvelle, nos prières vous accompagnent. Comme je vous le disais dimanche dernier, nous allons alterner notre étude sur l'Évangile selon Jean avec une étude sur les paraboles. La première parabole que nous allons étudier aujourd'hui, celle qu'on appelle la parabole du figuier. Nous allons commencer notre lecture dans l'Évangile selon Luc au chapitre 13 et à partir du premier verset jusqu'au verset 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, il donnera du fruit. Sinon, tu le couperas. Nous allons faire ressortir dans cette parabole la patience de Dieu et aussi les soins bienveillants qu'il nous apporte. Le figuier comme la vigne sont très présents dans toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Ici, dans cette parabole, les deux sont associés. Nous avons un figuier et nous avons une vigne. Le figuier, lui, est stérile. Mais parlons de l'association du figuier et de la vigne. Quand le figuier est associé à la vigne dans la Bible, c'est pour signifier un temps d'abondance, de bénédiction, de sécurité, de bonheur pour le peuple. Par exemple, dans Michée au chapitre 4 et au verset 4, il est dit: Ils habiteront, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler. Nous voyons aussi même genre d'expression dans le livre du prophète Joël au chapitre 2, verset 22, ainsi que dans celui de Zacharie au chapitre 3, verset 10. Nous avons un autre exemple avec la période du règne de Salomon où il est dit que le peuple était en sécurité, chacun sous sa vigne et son figuier. Si dans cette parabole la vigne et le figuier sont associés, c'est pour montrer que la scène se passe dans une période de sécurité, une période d'abondance. D'ailleurs, la vigne porte bien du fruit. Tous les éléments sont donc réunis pour que les arbres portent leurs fruits. La terre est bonne, le climat est favorable, il y a assez de soleil, assez de pluie, il n'y a pas de gelée tardive, etc., etc. Il n'est donc pas normal que le figuier ne porte pas de fruits. On peut supposer aussi qu'il ne soit pas trop jeune, puisqu'on devait attendre au moins 3 ans pour y cueillir du fruit, et de plus, il est dit que cela fait 3 ans que le maître de la vigne vient y chercher du fruit, mais en vain. On peut donc supposer que cet arbre a donc au moins déjà 6 ans. Mais il y a un problème. Il y a une anomalie. Il est stérile et donc il occupe la place inutilement. Il est dans la volonté de Dieu que nous portions du fruit comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 15. Et Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous portions du fruit. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une anomalie dans l'arbre. Peut-être est-il malade ou un autre problème. Ici, dans le contexte, le fruit est en relation avec la repentance. Ailleurs aussi, On voit que Jean-Baptiste parle du fruit de la repentance. Jésus va répondre à ceux qui lui posent des questions et parce que on lui demandait, parce que certains avaient se posé des questions, parce qu'il était arrivé que des Galiléens avaient souffert et Pilate avait mêlé leur sang avec celui de leur sacrifice. Était-il plus coupable que les autres? Et puis Jésus va parler aussi de ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée. Était-il plus coupable que les autres? Malheureusement, de tout temps, il y a eu des drames, des catastrophes naturelles. Il y a eu toutes sortes de choses où des personnes ont péri. Est-ce que ces personnes étaient plus coupables que les autres qui n'ont point péri? Jésus donne cette réponse, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le problème, c'est que cela n'amène pas à réfléchir. Chacun ne réfléchit pas à ses voies. Ici, il est donc clair que le fruit en question est en relation avec la repentance. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous devant Dieu? Où en sommes-nous dans les voies du Seigneur? Où en sommes-nous face à la volonté du Seigneur? La question nous est posée. Le fruit est donc en relation avec la repentance. Ailleurs, on voit aussi que le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Dieu veut que nous portions le fruit de l'esprit, etc., etc. Nous ne sommes pas et nous ne devons pas être sans porter du fruit. Alors je rappelle ce que nous avions dit, que le Seigneur nous a choisis et nous a établis afin que nous portions du fruit. Mais parlons maintenant, avant d'aller plus loin, de la patience de Dieu. En plus d'attendre 3 ans, le propriétaire du figuier va attendre une année supplémentaire. Quelle patience! La patience de Dieu nous dépasse. Nous la voyons dans toute la Bible et elle est merveilleusement illustrée dans cette parabole. Dieu est patient. Il nous supporte. Il supporte longtemps les pécheurs que nous sommes. Je cite quelques versets dans Romains 9, 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dans la Bible, il est souvent question de la patience de Dieu dans la lenteur qu'il prend à la manifestation de ses jugements. Lorsqu'il se présente à Moïse, il proclame son nom en disant: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. L'apôtre Pierre écrit ceci dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pierre écrivait ça il y a déjà environ 2000 ans. À bien plus forte raison maintenant, on pourrait se dire, mais ça fait 2000 ans supplémentaires. Mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience envers chacun d'entre nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu dispose du temps comme il le veut, il le contrôle. Et avant d'intervenir dans ses jugements, il laisse au pécheur toute la possibilité de venir ou de revenir à lui, de se repentir et de mettre toute leur foi et leur espérance en lui. Je citerai encore ce verset dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Voilà. Nous voyons que Dieu contrôle le temps. Il est patient. L'apôtre Pierre ajoute encore: Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit encore que Avant le déluge, l'Éternel usait de patience. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 20, la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Il est dit que la patience de Dieu se prolongeait. Nous pouvons affirmer que les jugements de Dieu sont justes, même si nous ne les comprenons pas toujours, mais aussi qu'il ne les exerce qu'après avoir épuisé toutes les autres formes d'avertissement et de répréhension. Les habitants de la ville de Ninive en sont un bel exemple. Nous pourrions citer encore d'autres exemples de la patience de Dieu, mais nous pouvons tous nous rappeler combien souvent le Seigneur a usé et use encore de patience envers nous, envers chacun d'entre nous. Il est parlé dans la Bible de la patience de Moïse, mais Jésus a été encore bien plus patient que Moïse. Il a manifesté sa patience dans de nombreuses occasions, que ce soit avec ses propres disciples, avec les contestataires. Il a été aussi, bien sûr, patient dans toutes les souffrances qu'il a supportées. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Lui qui insultait ne rendait point l'insulte, souffrant ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a été patient dans toutes ces choses. Il est encore écrit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. La patience de Dieu nous dépasse. La patience divine est dans la nature même aussi du Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu, c'est le fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Cette parabole nous parle donc de la patience de Dieu envers chacun d'entre nous. Mais pas seulement de la patience de Dieu. Elle nous parle aussi des soins bienveillants du Seigneur. Dans sa patience, le vigneron va demander un délai supplémentaire de 1 an. Pendant ce délai, le vigneron ne sera pas inactif. Il ne sera pas simplement un observateur passif, mais il sera actif, prodiguant au figuier tous les soins nécessaires et supplémentaires pour qu'il puisse porter du fruit. Dieu n'est pas simplement patient envers nous, il est bienveillant. Et sa bienveillance est pleinement en action dans son temps de patience. Il fait tout pour que nous puissions porter du fruit. Le Saint-Esprit cherchera à nous convaincre. Le Seigneur mettra en œuvre toutes sortes d'événements qui surviendront dans notre vie pour nous amener à réfléchir à nos voies, pour nous amener à la repentance, pour nous apporter des convictions, pour affermir notre foi, pour que nous puissions porter le fruit de l'Esprit. Bref, tout sera mis en œuvre pour que nous portions du fruit. On ne peut rien reprocher au Seigneur. Il est patient et bienveillant. Si nous ne portons pas de fruit, ce n'est pas lui le fautif, ni même nos semblables. Il est facile de reporter la faute aux autres. Chacun est responsable de sa propre vie spirituelle. Dans son plaidoyer, le vigneron va demander au propriétaire de la vigne une année supplémentaire. Il va lui réclamer cela. Nous avons là encore une belle image de Jésus, notre avocat, qui intercède pour chacun d'entre nous dans son amour qu'il nous porte. C'est à chacun de nous de se placer devant le Seigneur et de chercher sa face pour progresser dans ses voies et avoir une relation vivante avec lui afin de porter du fruit à sa gloire. Et comment? Ne pas penser à ce verset de Romains chapitre 2 verset 4 où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ici, il est parlé, bien sûr, de la patience de Dieu, et aussi de sa bonté et de sa longanimité qui est aussi similaire à la patience dans le sens que Dieu endure, que Dieu supporte même les outrages qu'on peut lui faire, voulant aussi nous porter à la repentance, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc Dieu est patient et bienveillant envers nous. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions porter du fruit, à nous d'en porter. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Cela, bien sûr, nous ramène à ce que nous avions vu ensemble dans le cep et les sarments. Les sarments qui ne portent pas de fruits sont retranchés aussi. Dieu est patient, il est certain. Mais sa patience, un jour aussi, se terminera. Dieu est patient et bienveillant envers nous. Et cela nous devrait, en tout cas, nous pousser à la repentance. Si Dieu est patient, lui qui est saint, parfait, sans péché, s'il est bienveillant envers nous, soyons nous aussi patients les uns envers les autres. Ce sont nos semblables. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Soyons donc patients envers eux. Se plaindre des autres est facile, mais nous sommes plus appelés à les aider dans leur vie spirituelle. L'amour supporte tout. L'amour est patient. Puissions-nous réfléchir aussi quant à notre attitude les uns vis-à-vis des autres, face, devant, j'allais dire, l'exemple que nous donne le Seigneur vis-à-vis de nous. Le Seigneur est patient, le Seigneur est bienveillant. Que Dieu nous aide, les uns les autres, à croître dans la grâce et à toujours porter du fruit. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.